que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Résonne en ce lieu,
de tout ton cœur,
que ton nom résonne en ce lieu,
continue à aimer,
que ton nom résonne en ce lieu,
Jésus,
que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus.
Que ton nom résonne.
Que ton nom résonne en ce lieu.
Chante-le là où tu es.
Que ton nom résonne en ce lieu.
Chante-le à la maison.
Que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance,
Jésus,
ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus.
Nous chantons ton nom, Jésus.
Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu.
À quoi servirait-il de nous rassembler Si on oubliait ce message crucial de la croix c'est Jésus qui s'est fait chair, qui est venu sur la terre et qui a accepté de prendre le poids de nos péchés. Et ce Jésus qu'aujourd'hui nous révérons, nous adorons, nous magnifions, nous élevons, la bonne nouvelle c'est qu'il n'est pas resté sur le bois, il est ressuscité. Et c'est cela qui nous donne cette victoire en lui. Et nous voulons chanter la croix ce matin.
Celui que mon cœur chérit, et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut. Seul me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte. Afin de te connaître, tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me
Est-ce qu'on pourrait tout simplement tous ensemble élever le nom de Jésus, lui dire merci pour la croix, merci pour ce sacrifice. C'est toi qui as payé ce tribut pour nous. Tu étais rançon pour nous. Élevons tous ensemble la voix. Jésus, merci. Jésus, merci, merci parce que tu as pris le poids de nos péchés. Parce que tu as accepté de souffrir. Tu nous as libérés. Tu as détruit nos chaînes. Par cet acte si glorieux. Beaucoup devaient se réjouir parce que Jésus était mort. Mais 3 jours après, il a été ressuscité. Cette résurrection, encore une fois, nous confère la victoire. Nous sommes protégés, nous sommes cachés en toi, Jésus. Ton sang a coulé. Il fait de nous aussi une nouvelle créature. Nous te bénissons, Jésus, pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Tu es digne. Reçois l'adoration, Jésus. Personne sur cette terre n'aurait pu faire ce que tu as fait. Et tu t'es livré pour nous. Nous qui étions pécheurs. Nous étions perdus. Tu nous as rachetés à grand prix. Gloire à toi, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Et dans cette communion aussi avec le Christ, il disait à ses disciples, il est préférable que je m'en aille afin de vous envoyer le consolateur. Dans certaines traductions, on parle de défenseur. Et c'est ce consolateur, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, qui nous donne de pouvoir vivre un cœur à cœur avec Jésus. Il est l'accomplisseur de la volonté divine. Il vit en nous. Il est au milieu de nous, il est parmi nous. Mais plus encore, il vit en nous. Et on veut prendre ce temps de cœur à cœur avec le Saint-Esprit.
C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Dans tes bras, je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce. Jésus, je ne veux que toi pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face devant ta grâce. Le reste quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le saint désir de mon cœur, c'est ton cœur. Thank you. je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur.
Cette voix, n'hésitez pas à lui dire merci, à lui dire que nous l'aimons tout simplement. On va écouter une parole.
Je voudrais apporter une pensée qui me semble venir du Seigneur et que je remets à votre perspicacité, à votre discernement. Et pour ceux qui peut-être viennent pour la première fois à un culte dans une église comme la nôtre ou qui nous regardent pour la première fois, sachez que nous sommes une église comme d'autres églises dans le monde qui croyons que Dieu parle toujours, que ce soit à travers sa parole ou que ce soit en inspirant l'un ou l'autre d'entre nous. Et voici la pensée. Les nations s'agitent, mon peuple, les nations s'agitent et tu sais très bien qu'elles s'agiteront encore et de plus en plus. Elles vont se rassembler, fomenter des complots. Tout sera fait pour lutter contre moi, le Dieu, le Créateur, le Seigneur. Et pourtant, mon cher peuple, je tiens à te dire, n'aie pas peur. Ne crains strictement rien. N'aie pas peur parce que tu as une force que tu ne connais pas, que le monde ne connaît pas. Une force invisible et qui est pourtant extrêmement forte, vive. Et cette force, elle se trouve dans ton unité. L'Église est constituée de pierres, de briques. Et c'est dans la mesure où elles sont imbriquées les unes dans les autres, où elles sont jointes les unes aux autres, qu'il y a une véritable force dans mon Église, dit le Seigneur. Mon cher peuple, ma chère Église, veille sur ton unité. Parce que lorsqu'il y a un grain de sable, lorsque tu laisses, entre guillemets, un espace entre toi et ton frère, toi et ta sœur, en fait, tu crées un espace de fragilité. Parce que le diable voudra l'utiliser pour condamner, accuser, pour faire peur. Alors, ma chère Église, si tu veux répondre à l'amour de mon cœur, dit Jésus, travaille à ton unité. Rapprochez-vous les uns des autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Confessez-vous les uns aux autres dans la mesure de ce que vous devez chacun faire, sans en faire de trop, mais en faisant ce qui est à faire. Mon Église, dit le Seigneur Jésus, je t'aime et je compte sur toi. Je compte sur toi. Je t'ai donné l'unité par l'Esprit et je compte sur chacun d'entre vous pour travailler à cette unité. Et c'est comme ça que vous réjouirez mon cœur, dit le Seigneur Jésus.
Amen.
Que l'on puisse retenir ces paroles et qu'elles puissent faire écho dans nos cœurs. On va terminer, on va clôturer ce temps de louange avec Merveilleux Nom. Est-ce que vous pouvez encore vous lever, c'est possible ?
Seulement ultime. 2024. Amen. Amen. Quelques annonces pour cette célébration. On a entendu un don spirituel qui nous parlait de rechercher l'unité, puis on veut vous présenter des occasions de vivre l'unité, de pouvoir combler les brèches qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Hier, on a eu une conférence Ironman. On avait une petite centaine d'hommes réunis. Est-ce qu'il y a des hommes qui étaient là hier qui sont encore dans la salle là? Yes, je veux vous entendre là. Ouais, c'est un peu rauque, hein, c'est les voix d'hommes là. Est-ce que vous avez bien mangé?
Oui.
Est-ce que vous avez bien bu?
Oui.
Est-ce que vous êtes bien amusé?
Oui.
Mais est-ce que vous avez connecté aussi avec des autres frères d'armes?
Oui.
Yes. C'est des moments comme ceci qu'on veut vivre à l'église parce qu'on croit qu'au-delà des célébrations, l'église c'est aussi des connexions, c'est des gens qui se soutiennent, qui s'encouragent. Et ceci c'est un exemple de ce que vous pouvez vivre. On a des groupes de maison, il y a des groupes de vie qui se réunissent. Si vous voulez plus d'informations, allez au point accueil, pas de souci. Vous aurez toutes les informations en fonction du quartier, de vos affinités, des choses que vous aimez. Vous trouverez un groupe à votre portée. Voilà une première annonce. Une deuxième annonce, c'est que la semaine prochaine, nous aurons le président des Assemblées de Dieu de France, donc la famille d'église dans laquelle l'EPI fait partie, le pasteur Yann Antoine qui a été élu au mois de mars, qui va venir nous encourager, insuffler aussi une vision pour notre famille d'église. Le mouvement de Pentecôte, on croit qu'il n'est pas mort parce que le Saint-Esprit n'est pas mort. Amen.
Amen.
Et on croit que Dieu veut se servir de son église, veut nous encourager. Donc on aura Yann qui sera avec nous, on aura un temps avec les leaders le samedi matin et le dimanche avec nous pour la célébration. Et juste après avoir été encouragé, on aura l'occasion de se tenir encore tous ensemble, chaque soir, du lundi au mercredi, pour un temps de jeûne et de prière. Qui croit que rien ne se passe sans la prière? Dieu cherche un peuple qui vient chercher à se connecter. Ça sera tous les soirs dans cette salle, donc du lundi au mercredi, sur le thème des guérisons, parce qu'on va voir que la guérison, c'est quelque chose de multiple dans les Écritures, et on veut vraiment prendre un temps pour chercher la face de Dieu. Peut-être aussi, s'il y a des gens malades au milieu de nous, c'est peut-être l'occasion de dire « Ok, je vais aller chercher le cœur de Dieu pour ma situation ». Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des gens, amenez-les. On veut vraiment vivre des temps forts où on va pouvoir connecter, prier les uns pour les autres et s'encourager dans ce domaine. Ensuite, une annonce, c'est le 8 novembre, les aînés, on ne vous a pas oublié, encore un moyen de connecter à l'EPI. Une rencontre des aînés, elle n'aura pas lieu le 1er novembre, qui est un jour férié, mais le vendredi 8. Et pour toutes les autres dates de l'année, les aînés, vous pouvez le retrouver au point accueil où vous avez toutes les dates pour toute l'année. Est-ce qu'on se réjouit de tout ce qui se vit à l'EPI?
Amen.
Il y en a quelques-uns qui croient. Et de ce côté-là, il y en a un peu qui se réjouissent de ce qui existe à l'EPI. Yes. Ok, je vais inviter maintenant notre orateur du matin, pasteur Samuel Balverde, qui est un ami, qui est pasteur à l'église de Lille Métropole, une église un petit peu plus grosse que la nôtre, mais qui vit aussi les mêmes défis, bâtiments, changements, etc. Donc ils vivent la même saison. Sam est pasteur, il est papa, il est mari d'une missionnaire américaine qui est là depuis quelques années en France. Et vraiment Sam, 18 ans qu'elle est là, 18 ans qu'elle te supporte, non un peu moins. Ok. En tout cas, on est heureux de t'avoir, Sam, ce matin, que tu puisses déverser ce que Dieu a mis sur ton cœur pour l'église de l'Épi. Bienvenue, on peut l'applaudir.
Merci RP, merci à chacun d'entre vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Comme je l'ai dit hier aux hommes, l'Alsace a une saveur toute particulière pour moi, puisque c'est là où j'ai grandi dans ma petite enfance, à Haguenau. Pour ceux qui sont peut-être des plus anciens, ont connu mon père, qui a été pasteur là-bas dans les années 80. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Et c'est pour ça que j'ai quelques cheveux blancs, entre-temps. Non, ce n'est pas uniquement le mariage. C'est aussi dû juste simplement à la génétique. En tout cas, très heureux d'être là et puis de voir toute l'équipe avec laquelle j'ai connu Michel tout jeune. Et puis, moi, j'étais tout jeune. Et lui aussi, probablement plus jeune. Mais c'est une grâce de voir ce que Dieu fait au milieu de vous. Et j'entends vos projets, j'entends ce que Dieu fait. Nous, ça fait 9 ans qu'on est sur l'île. Et on est en plein dans les constructions, les bâtiments en ce moment. Donc on vous devance probablement de quelques longueurs. Et on aime partager avec vous ce que Dieu peut faire lorsqu'on lui fait confiance. Et on sait qu'il n'a pas fini avec son église. Il l'a bâtie, il l'ajoute encore. Et on veut voir encore agir puissamment en France. J'ai partagé hier ce que Dieu fait en France. Je pense qu'on ne réalise pas toujours ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans notre pays. Nous avons prié, nous prions souvent pour le réveil, nous prions souvent pour ce que Dieu fait. Mais je crois qu'il est en train d'agir et nous devons être attentifs en tant qu'Église à entrer dans les choses qu'il a déjà préparées d'avance et avec cette foi, avec ce qu'il a mis sur votre cœur. Alors voilà, c'est juste un plaisir d'être avec vous. Pour ce que je voudrais partager aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question d'abord. Alors pour tous ceux qui ont connu Ictus à une époque, il y avait des questions difficiles. Hein. Je vous ai posé une question difficile. Est-ce que vous connaissez Shamua, Shaphat, Yegéal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Sétour, Nabi et Geyuel? Je ne fais pas en train de faire l'appel. Si certains cherchent des prénoms pour les enfants, servez-vous. Vous voyez pas qui c'est ? Ce sont 10 hommes qui auraient pu entrer dans l'histoire comme ayant vécu une grande épopée. Ils auraient pu entrer dans la promesse et dans les bénédictions qui sont à venir. Et pourtant, ils n'y sont jamais pleinement entrés dans ce que Dieu avait voulu pour eux. Ces 10 hommes, peut-être pour vous resituer leur contexte, ce sont 10 hommes qui ont été envoyés par Moïse après dans la traversée du désert afin de pouvoir voir ce qui se passe dans le pays promis. Avec 2 autres hommes que vous connaissez probablement beaucoup mieux, ils s'appellent Josué et Caleb. Ce sont ces 12 espions qui sont allés à rencontre et puis ils ont vécu les mêmes choses. Et pourtant, ils n'ont pas eu du tout la même réaction intérieure à ce qu'ils ont vécu. Et Dieu avait un projet, il leur a présenté et la réaction qu'ils ont eue en revenant a été une réaction de peur, de crainte. Et j'aimerais qu'on lise ce texte, on lit dans le livre de Nombres, au chapitre 13, versets 31 et 33, il dit « Mais les hommes qu'il y avait accompagnés dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous, et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille, un peu comme moi. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Ils ont eu peur, peur d'échouer dans la promesse que Dieu leur avait donnée. Qu'est-ce que c'est que la peur de l'échec ? C'est la peur d'échouer dans nos objectifs. C'est la peur de ne pas être à la hauteur de nos attentes, mais aussi aux attentes des autres autour de nous. Alors, comment ça se manifeste ? Parce que très souvent, ça n'arrive pas comme ça en disant « voilà, tu as peur de l'échec ». Alors j'ai donné quelques petits 10 signes qui peuvent vous aider un petit peu à identifier si vous êtes concerné. La première, c'est si vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous. Personne ne se sent concerné. L'échec, vous fait vous inquiéter de votre capacité à poursuivre l'avenir que vous désirez. Vous avez peur de ce que les gens se désintéressent de vous. Vous avez des doutes sur votre intelligence, sur vos compétences, sur vos capacités. Vous avez des craintes de décevoir les personnes dont vous appréciez l'opinion. Ça peut être des proches, des parents, votre famille, des figures d'autorité, un patron, des collègues. Vous avez tendance à dire aux gens à l'avance que vous ne vous attendez pas à réussir afin de réduire leurs attentes. Comme ça, moins de déception si ça ne se passe pas. Une fois que vous échouez à quelque chose, vous avez du mal à imaginer ce que vous auriez pu faire différemment pour réussir. Parfois, il y a des maux de tête, de dernière minute, des maux d'estomac ou d'autres symptômes physiques qui vous empêchent de terminer votre préparation. Vous êtes souvent distrait par des tâches qui empêchent à terminer votre préparation qui, avec le recul, n'était pas aussi urgente qu'elle le semblait à l'époque. Pour ceux qui savent ce que c'est, vous avez tendance à procrastiner et à manquer de temps pour terminer votre préparation de manière adéquate. Je pense qu'on se sent tous un petit peu concernés par ça, non ? D'où ça vient ? Ça vient de beaucoup de choses qui viennent nous bloquer dans notre développement, dans notre foi avec Dieu. Ça vient de la chute, du départ à la Genèse. Et j'aimerais vous amener juste dans Genèse 3, verset 10, ce moment où Adam va devoir répondre et il vient de désobéir à ce commandement qu'il a reçu de Dieu, de dire « je vais consommer ce que je n'aurais pas dû consommer, j'ai touché à ce que je n'aurais pas dû toucher » et il va entendre la voix de Dieu dans le jardin. Et c'est ce qu'on lit. « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Il y a cet échange avec Dieu. Il dit « Et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » Notre nudité, c'est ce qu'on montre de façon plus vulnérable. Et c'est extrêmement désagréable de se sentir vulnérable, de se sentir nu devant lorsqu'on est conscient de ce que l'on a accompli, lorsqu'on est face à ce qu'on aurait voulu voir différemment dans nos vies. Et c'est tellement douloureux de voir l'échec auquel on a fait face. Il suffit juste de voir un enfant qui est pris sur le fif. Et on est capable de cacher et de dire « Non, 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 il ne s'est rien passé, je suis dans le déni total par rapport à ce qui s'est passé. » Parce que c'est tellement douloureux de reconnaître, de confesser, de dire ce que j'ai vécu. On se sent tellement vulnérable dans ces moments-là. Et on préfère se cacher que d'y faire face. Si c'est vrai pour le premier homme, c'est certainement vrai pour nous aussi. Face à nos manquements, notre insuffisance, cet échec, il est douloureux. On peut essayer de rationaliser les choses, on peut essayer d'essayer d'expliquer les choses, mais enfin, on sait qu'on a échoué finalement, qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'on aurait dû réagir et agir différemment. Et on est déçu à la fois de nous-mêmes, et on est déçu de ce que l'on a trahi finalement la confiance de l'autre. On cache. Ça me rappelle ce texte que Jésus va partager, ou du moins cette histoire que Jésus va partager concernant les talents. Vous connaissez cette histoire ? Jésus va raconter cet homme qui va donner l'administration de ses biens à trois personnes. À la première, il va lui donner 5 talents, c'est-à-dire une grande somme d'argent. Dans une certaine version, disent 5 lingots d'or, un autre 2, et puis un dernier 1. Et puis, il part, et puis, eux, ils font fructifier ces biens-là, de telle façon à ce que, lorsqu'ils reviennent, ils soient heureux de pouvoir dire, voilà, moi, j'ai pu travailler tes biens, et j'ai pu faire fructifier ces choses-là, de telle façon à ce que tu reviennes, ben, tu sois satisfait de ce que tu m'as confié, et j'étais à la hauteur de l'engagement. Et on voit que ce dernier qui a reçu un talent, lui va avoir une autre approche. Et on lit cela dans Matthieu 25, versets 24 et 25. Il dit « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Lorsque nous avons peur d'échouer, lorsque nous avons peur de la sanction, on préfère cacher, enfuir le potentiel que Dieu nous a donné. Et parfois, certains ont dit que dans les cimetières, c'est là où il y a le plus de richesses, parce que c'est toutes ces personnes qui n'ont finalement pas développé tout ce que Dieu leur avait donné, et se sont parties avec eux dans la mort. Alors, certes, ça peut être décourageant. Et puis, ça peut nous montrer que nous avons tous un chemin à faire. Alors, j'aimerais juste voir comment on peut contrecarrer cette peur de l'échec. Je vais vous partager quelques pistes pour y faire face, ou quelques raisonnements, quelques clés qui pourraient vous aider à y faire face de façon différente si vous étiez confronté à ce genre de choses. La première, c'est d'accepter que les échecs sont inévitables. Moi qui suis un perfectionniste, ou du moins le perfectionniste qui est en moi, déteste échouer. Il aime que tout soit bien réussi du premier coup. Mais vous savez quoi? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Nous sommes imparfaits. Nous vivons dans un monde imparfait. Et nous allons être déçus à un moment ou à un autre. Et nous allons faire des erreurs. Nous allons vivre des échecs. Et peut-être beaucoup d'entre vous, alors plus on est jeune, plus on pense qu'on va réussir à en avoir moins, mais plus on a un peu d'expérience, je regarde les cheveux blancs, plus on est conscient qu'on est capable de vivre ces échecs-là et ces erreurs-là. Peut-être que certains d'entre vous, nous aimerions rembobiner les choses. Nous avons et nous faisons tous des erreurs. Alors, il faut arriver à intégrer cela. Ça fait partie parfois de notre difficulté parce que nous célébrons facilement les réussites. Nous célébrons ce qui réussit. Notre société est celle qui va développer, va célébrer, va admirer des personnes qui réussissent dans cette société, dans cette vie. Et nous, dans la Bible, pareil, nous avons parfois ce regard sur les hommes de la Bible, les femmes de la Bible, de dire « Waouh, ce sont des gens extraordinaires, ils font des choses extraordinaires. J'aimerais être comme eux, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas pouvoir faire comme eux. » Et c'est là où c'est intéressant de voir qu'en fait, finalement, ils ont autant d'échecs et l'abîme ne cache rien de leurs échecs. Pourtant, ça n'enlève rien à la façon dont on va pouvoir les regarder, être inspiré par eux. Aussi bien aussi dans leur réussite, grâce à Dieu, que dans leurs échecs. Cette peur nous touche tous. Alors, je vais vous donner juste quelques héros de la foi dont vous pouvez connaître peut-être l'histoire. Noé, qui a abusé de la boisson au point d'embarrasser ses enfants. Abraham, qui a menti à deux reprises, exposant sa femme pour sauver sa vie. Je ne recommande pas les garçons, les hommes, hein. Les maris. Jacob a trompé son père, avec l'aide de sa mère pour recevoir les bénédictions. Joseph a excité la jalousie de ses frères au point qu'ils le vendent comme esclave. Et David n'a pas su gérer les conflits qu'il y avait avec ses enfants, au point qu'ils se sont opposés les uns les autres et ils ont fini même par se détruire les uns les autres, par vengeance et par ambition. Pourtant, chacun d'entre eux, on connaît leurs accomplissements aussi avec Dieu. Alors, ce n'est pas une raison pour dire « je vais minimiser ou excuser nos échecs, nos erreurs ». Mais c'est là pour nous apprendre à comprendre que ça fait partie du chemin du chrétien. Ça fait partie du chemin de l'être humain sur cette terre. En fait, la question ne devrait pas être « si je vais trébucher », mais la question serait plutôt « lorsque je vais trébucher, est-ce que je vais me relever ?» Parce que la Bible nous dit oui que les justes tombent aussi. Et on le voit. Mais la particularité d'un juste, ce n'est pas qu'il tombe, c'est qu'il se relève. Et vous connaissez très bien ce texte dans Proverbes 24, verset 16, qui nous dit « Sept fois le juste tombe, mais il se relève. Et quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans leur malheur. » Ils ont du mal, ils n'arrivent pas à se relever. Et ça fait même dire à un auteur, Zig Ziglar, qui nous dit « Ce n'est pas la hauteur de votre chute, mais la hauteur de votre rebond qui compte. » Et ça change notre vision de l'échec. Oui, ça fait partie de notre quotidien, de notre vie, mais ce n'est pas la fin en elle-même, c'est la façon dont on va ressortir de cette situation-là. La façon dont on va rebondir vis-à-vis de ces situations-là. Et c'est vrai dans plein de domaines. C'est vrai dans les relations, c'est vrai dans la famille, c'est vrai dans le couple, c'est vrai dans le travail, c'est vrai dans nos vies professionnelles, c'est vrai dans tellement de domaines de nos vies. Nous faisons face à des échecs, nous faisons face à des moments difficiles, mais on accepte que ça fasse partie de cela, afin de pouvoir en ressortir plus haut. Si l'échec est inévitable, nous devrions donc changer plutôt notre approche, et comme on l'a vu, à son sujet. Donc changer cette vision, c'est ma deuxième clé, ou deuxième approche, c'est changer votre vision de l'échec. Le fait déjà que ce soit quelque chose qui soit à fasse partie de notre quotidien, mais ça fait aussi partie et de notre apprentissage. On apprend en tentant et en échouant aussi. Et il y a plein d'exemples dans notre vie quotidienne. Comment vous avez appris à marcher? Vous êtes tombé quelquefois? Même si on essaie d'à côté de maintenir les enfants, ils vont tomber, ça fait partie du processus d'apprentissage. Je ne sais pas s'il y en a qui font du ski, mais en général, on finit souvent par terre la première journée. On est parfois plus au sol que sur les skis. Et dans plein d'autres domaines de nos vies, on apprend à travers le fait qu'on va avoir des erreurs. Bien sûr, on ne va pas rester sur ces erreurs parce qu'on va persévérer, on va avancer. Et puis, on va se développer ça. C'est comme l'apprentissage. Je discute avec Emine juste avant. Il me dit qu'il est en France. J'ai vu un autre exemple. J'aime très certainement mélanger les mots, mais Zhangzi, je ne sais pas si c'est Zhangzhou, qui vient de Malaisie, ou un autre frère qui vient d'Arménie, qui sont là depuis peu de temps, mais qui apprennent le français. Alors je leur souhaite vraiment beaucoup de courage et de persévérance. Et quand on apprend une nouvelle langue, les Français étant tellement bons dans les langues, vous savez, on apprend tellement bien l'anglais. J'ai fait un voyage linguistique quand j'avais 13 ans. Mes parents avaient eu le courage de m'envoyer en Angleterre, dans une famille où ils ne parlaient pas ni aucun mot de français. Et moi, du haut de mes 2 années d'études à l'époque d'anglais, j'essayais de leur parler. Ils ne comprenaient pas ce que je disais. Ils me parlaient et je ne comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Donc je ne sais pas si l'anglais en Angleterre, c'est vraiment l'anglais. Mais c'était compliqué. Et ça a été un moment difficile, un moment où douloureux, on se sent ridicule, on se sent un peu bête. Et c'est là où on apprend. On sait que ça, on doit passer par cette phase-là où finalement on va sortir de cette phase où on est face à nos échecs pour apprendre. C'est peut-être parfois un peu humiliant. C'est parfois là où justement on apprend à aussi penser un petit peu moins de nous-mêmes et nous dire je suis dans un processus de croissance, je suis dans un processus d'apprentissage. Il y a certaines choses qu'on ne peut apprendre que dans des situations d'échec. L'apôtre Pierre, par exemple. L'apôtre Pierre, il a appris à faire confiance à Dieu dans des situations d'échec. C'était un homme rempli d'enthousiasme, d'initiative, et il était prêt à accomplir des choses extraordinaires pour Dieu. Mais il y a des choses qu'il va apprendre qu'à travers des échecs. Et je voudrais juste vous donner par exemple, par 2 fois, il va échouer dans son travail. Ils ne vont rien avoir pendant toute la nuit. Et c'est à ce moment-là qu'il va devoir apprendre à faire confiance à Dieu dans son travail. Et il va dire, Seigneur, même si moi, ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai l'habitude de faire, la façon de le faire, j'ai échoué, mais je veux te faire confiance parce que tu vas me montrer comment réussir. Ou du moins, il va le découvrir en faisant confiance à Dieu. Et à 2 reprises, tout au début de cette rencontre avec Jésus, et aussi juste avant que Jésus soit élevé, il va vivre cette pêche miraculeuse. Ça s'est passé parce qu'il y a eu un échec avant, et il a appris à ne pas rester sur cet échec-là, mais à apprendre et à découvrir. Car lorsque je fais confiance à Dieu, lorsque j'ai confiance à Dieu, alors je peux vivre des choses qui dépassent mon entendement. Je peux vraiment vivre des choses belles. Mais aussi appris à encourager ses frères dans la foi. Et ça, après, probablement son échec le plus difficile. Vous connaissez probablement que, alors qu'il était rempli de, d'enthousiasme pour Dieu. Il était prêt à accompagner Jésus jusqu'à la mort et dire, Seigneur, je veux vraiment te laisser, je veux être avec toi et je vais te protéger, je vais assurer que ta vision s'accomplisse et que les objectifs qu'on s'est fixés vont s'accomplir. Et puis Jésus va lui dire, attends, je sais que tu vas me renier, tu vas me trahir, tu vas avoir peur. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de Jésus face à cet échec. Il va lui annoncer, dire, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Ça va être la conséquence de tout ce processus dans lequel il va avoir, c'est d'apprendre à avoir confiance en Dieu et en son regard, malgré les épreuves et les difficultés, et plutôt l'échec qu'il va vivre. Une déception profonde, amère, difficile. Mais il va apprendre à affermir ses frères. Il va apprendre à leur dire, voyez-moi où j'en étais. À plus forte raison, le Seigneur peut vous relever. Il peut vous encourager, même si vous êtes au fond, même si vous êtes dans le doute et la crainte. Même si vous êtes peut-être en train de me dire, mais est-ce que vraiment le Seigneur est capable de faire ces choses-là? Il dit, ouais, moi je l'ai renié complètement. Je vais vous relever. La vie chrétienne, ce n'est pas un chemin sans erreur, c'est un chemin où l'erreur peut nous amener à grandir. Un échec n'est fatal que dans trois situations, j'ai envie de dire. Si je ne reconnais pas cet échec, là je suis dans le déni. Si je ne reconnais pas que je suis moi-même en train de vivre cet échec-là. La deuxième chose, c'est si je n'apprends pas de cette erreur. On appelle ça souvent l'orgueil. Ça veut dire que je ne souhaite pas vivre ça. Et la troisième chose, c'est que je le laisse me rester dans cette situation-là. Je reste en situation d'échec et je reste bloqué dans cette situation-là en disant, c'est impossible qu'on aille plus loin. Et je fais comme ces 10 hommes dans le désert qui disent, c'est impossible, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Du coup, pour faire face aux échecs, et vous le voyez affiché, trois choses qui peuvent nous aider. Un, reconnaître. Je sais que ce n'est pas facile de reconnaître nos erreurs. Peut-être plus pour les hommes que pour les femmes, j'en sais rien. Mais on aime pouvoir montrer plutôt une façade de réussite, mais de reconnaître, c'est salutaire. De confesser, c'est salutaire. D'ouvrir notre cœur et dire, voilà ce que je vis, voilà ce que j'ai vécu. Et vous savez quoi? C'est libérateur dans les relations. Parce que quand on sait et on voit finalement que nous avons tous à un moment un autre échoué dans des domaines, alors on peut dire oui, moi aussi. Moi aussi, je suis comme toi. Moi aussi, j'ai eu mes échecs. Moi aussi, j'ai mes cicatrices. Moi aussi, j'ai eu ces moments difficiles. Et c'est important de pouvoir le reconnaître. Le deuxième aspect, c'est de réfléchir. J'aime ce texte dans Ecclésiaste 7, 14. Il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Réjouis-toi. Et au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Étudie les causes de cette erreur. Essaie de comprendre pourquoi tu t'es trouvé dans cette situation-là. Quels ont été les mécanismes? Quel est l'apprentissage que tu peux en tirer? De telle façon à ce que tu puisses ressortir de là avec des enseignements, avec des leçons. Et puis la dernière chose, c'est de ne pas le laisser rester en moi. Et parfois, ça peut dire aussi apprendre à ne plus me voir à travers cet échec-là, à travers les lunettes de l'échec dans ma propre vie, et de me sentir disqualifié. Mais au contraire, d'apprendre à persévérer, à chercher au-delà ce que Dieu dit de moi. Ça nous parle de l'identité. En Galates 6, verset 9, il dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Ce n'est pas le moment de se dire « Non, je suis nul, je vais toujours être nul. » C'est le moment de dire, Seigneur, je sais que par ta grâce, je vais traverser ça. Et ce que je vais faire, ce que je vais accomplir, la façon dont je vais l'accomplir, va porter du fruit en son temps. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai du mal à voir autre chose que l'échec qui est face à moi. Mais avec le temps, je vais voir ce que tu es en train de construire, parce que je te fais confiance. Un autre aspect, c'est peut-être celui de, et qui n'est pas facile, parce que souvent dans les échecs, on a tendance à se comparer les uns les autres. Et c'est un piège. Soit pour minimiser, on dit « ouais, mais tous les autres font pareil, ça arrive à tout le monde. » Mais aussi parfois pour dire « ben non, tous les autres ils réussissent, moi, Je suis comme ça, je suis la brebis galeuse, je suis celui qui est comme ça, c'est lié à mon identité. Comment on évalue nos réussites? Comment on évalue nos échecs? Et souvent, c'est notre environnement qui nous le crée, qui nous donne cette idée-là. C'est ce que la culture considère comme une réussite, ça peut être la popularité, la réussite professionnelle, mes revenus, la réussite familiale, ça peut être considéré comme une réussite, mes diplômes, mes récompenses, mes médailles, mes victoires, mes accomplissements. Et on est sensible à ce que les autres disent de nous à ce moment-là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde d'entre nous qui sommes totalement hermétiques à ce que l'on nous dit. Et je m'inclus vraiment dedans. Le problème, c'est que si je me considère au-dessus des autres, j'ouvre la porte à l'orgueil, à l'arrogance, et je vais finir par écraser les autres. Si j'estime qu'au contraire, j'arrive pas, je ne suis pas à la hauteur de ces choses-là, j'arrive pas à vivre ces choses-là, j'ai cours après et tout le temps j'ai l'impression d'être de plus en plus profondément dans mon trou, n'arrivant pas à sortir, je vais me décourager. Et ça va accentuer encore plus en moi cette identité de perdant. Comment dire en anglais, le loser. Et ça vient comme inscrire en nous. Et ça va, lorsqu'on compare, alors notre peur va être parfois décuplée. C'est ce qu'on lit dans Nombre 13, lorsqu'on a lu ce texte-là. Nous y avons vu des géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. Et à nos yeux, à mes yeux, mais aussi aux leurs, nous sommes comme des sauterelles. Alors je veux bien croire qu'ils étaient petits, mais ils n'étaient pas des sauterelles. C'était leur vision qu'ils avaient. C'est ce qu'ils ont créé dans la comparaison. Ils ont dit, eux, ils ont ça, ils ont des villes fortifiées. Eux, ils ont une taille, ils ont une force, ils ont une capacité qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Et nous avons comparé ça avec nous. Et vous savez quoi? Très souvent, la comparaison, c'est on compare les choses les plus fortes chez les autres et on voit les choses les plus faibles en nous. Ça vous est jamais arrivé sur les réseaux sociaux, hein? Vous voyez les super vacances à l'autre bout de la planète. Et puis vous voyez, vous êtes chez vous, vous êtes malade, vous avez... Ah, j'aimerais avoir une vie comme ça, j'aimerais avoir les moyens, j'aimerais avoir tout ça. Et plein d'autres domaines, bien sûr. On vit dans un monde de comparaison. Et ça vient accentuer en nous, parfois, cette crainte de l'échec. Vous croyez, ce que vous croyez si fort, ce que l'on regarde comme étant si puissant, en fait, ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Parce que nous, on interprète à travers ce regard-là. Et c'est intéressant de voir ce que Rahab, qui est une habitante de Jéricho, qui était donc à Canaan, et qui va dire, voilà comment nous, en fait, les habitants de Jéricho, voient les Israélites. Et c'est intéressant, parce qu'elle dit, elle leur dit, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez, s'est emparé de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Et plus on est grand, plus ça tremble, plus les genoux s'entrechoquent, plus ça fait de bruit. Hein. C'est la peur s'est emparée d'eux. En fait, ils avaient totalement une autre vision des choses. Nous, parfois, on vient, on dit, ah, je ne sais pas si en face de nous, je vais avoir une vraie opposition. Et là, le Seigneur va nous dire, non, mais attends, moi j'ai déjà travaillé les cœurs. Tu arrives déjà dans un terrain qui est construit, j'arrive dans des choses qui sont préparées d'avance. Est-ce que tu as confiance que dans le terrain où tu arrives, le Seigneur a déjà travaillé? Et l'opposition que tu crains tellement, finalement, elle va disparaître au fur et à mesure que tu avances. Et c'est ce qu'ils vont vivre après dans la conquête. Ils vont rentrer et même ils s'étonnent lorsqu'ils ont quelques morts, lorsqu'ils ont eu quelques échecs. Tellement c'était la façon dont Dieu avait ouvert les portes. Comment sortir de tout cela? Et j'ai envie de dire, arrête d'essayer de te comparer, parce que ça ne va pas être très efficace, ça ne va pas t'aider, au contraire, à voir les choses. Mais essaie plutôt de changer de point de référence. Lorsque je vais regarder à Christ, je ne vais plus regarder ce que je suis ou ce que l'autre est, mais je vais regarder à qui il est, lui. Et ça change vraiment la chose. Par exemple, Pierre, lorsqu'il va rencontrer Jésus, lorsqu'il ne sait plus si Jésus est encore vivant, s'il est encore là, il va se manifester auprès de lui. Et on voit ce moment-là au chapitre 21, verset 21. Il dit, en le voyant et en l'entendant et en sachant que c'est Jésus qui est sur la berge, il va dire, Pierre dit à Jésus, et lui Seigneur, ah non pardon, si il lui dit, au moment où il y a cette discussion qu'il va y avoir entre Pierre et Jésus, il va s'inquiéter de ce que les autres vont arriver, ce qui va arriver à Jean à côté. Et il y a toujours cette discussion un peu de savoir qui est le plus grand entre nous. Et Jésus va lui dire, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Reste les yeux focalisés sur moi. Sois celui qui suit mon chemin. On en a parlé hier avec les hommes. Je veux être celui que tu veux, toi. Et ça va m'aider à pouvoir voir au-delà de ce que moi je vois dans ma vie. Mais lorsque je fais confiance à Dieu, lorsque je lui dis, Seigneur, je veux regarder vers toi et te suivre, alors, Seigneur, la comparaison n'aura plus de lieu d'avoir. On aura chacun notre chemin. On aura chacun nos victoires. Et on ne pourra pas comparer la victoire de l'un avec l'autre. On ne pourra pas comparer ce qu'une église vit par rapport à une autre église. Ce qu'une famille vit par rapport à une autre famille. Ce qu'un couple vit par rapport à un autre couple. Ce qu'un homme ou une femme vit par rapport à l'autre. C'est Jésus qui donne cette clé. Ne te préoccupe pas de ce que fait l'autre. Mais concentre-toi sur ta relation avec lui. Une dernière chose. Ne laissez pas l'échec vous définir. Je sais que l'échec est parfois très douloureux. Il peut vivre des profondes blessures en nous. Ça peut être dans un divorce, ça peut être dans un burn-out, ça peut être dans une situation professionnelle de faillite, ça peut être dans tellement de choses dans lesquelles on peut être des temps difficiles, de chômage, de maladie. On se dit, mais c'est traumatisant, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Et cet échec, parfois, il est attaché à nous. Et c'est intéressant de voir comment Jésus était venu à la rencontre de personnes qui avaient cette étiquette-là. Les gens de mauvaise vie, malades, les gens qui étaient rejetés. Et puis, il est venu à eux. Parce que l'antidote à la peur, ce n'est pas la foi, étonnamment. C'est l'amour. C'est ce que Jean va dire au chapitre 4, 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que moi, je ne suis pas venu pour vous châtier, je ne suis pas venu pour vous condamner, je suis venu pour vous relever, je suis venu pour vous montrer que je vous aime, que je veux vous sortir de cette situation dans les échecs dans laquelle vous êtes. Et ça nous rassure énormément. Ça nous montre combien Dieu face à l'échec n'est pas dépourvu. Il a même prévu d'avance comment y en sortir. Je vais comparer deux situations, celle de Judas l'Iscariote. Vous savez qu'il a trahi Jésus en le vendant à ses ennemis. Et il va réaliser son erreur et il va tenter de revenir sur sa décision. On lit ça dans Matthieu 27. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant ce qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent au chef des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent « En quoi ça nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. » Alors Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira. Et malheureusement, il alla se pendre. Moi, je crois que Jésus aimait profondément Judas. Il l'a choisi, il a vécu avec lui. Et je crois qu'il aime tout être humain qui sont sa créature. Mais je crois que Judas avait une autre vision de Jésus. Il ne pensait pas probablement, et là j'extrapole un petit peu, que Jésus lui pardonnerait. Que Jésus serait capable de pouvoir lui donner. Il pensait que tout était fini à la croix et que ça s'arrêterait là et que c'était l'échec. Et il devait rester sur cet échec-là. C'est la déception, l'amertume, parfois ça nous fait rester dans une position d'échec. Et de l'autre, il y a Simon-Pierre, j'en ai parlé tout à l'heure. Lorsqu'il a renié Jésus, il a pleuré amèrement. Mais je crois qu'au-delà de ça, il savait, et lorsqu'il a vu Jésus mourir après sur la croix, comme Judas, peut-être il s'est dit, c'est la dernière chose que j'ai fait avec Jésus, c'est le renier. J'étais pas là. J'ai demandé publiquement à 3 reprises, j'ai dit que je ne le connaissais pas. Est-ce que c'est ça, véritablement être un ami de Jésus? Ça devait être profondément dur pour lui. Mais Je crois que dans sa relation avec Jésus, il savait que Jésus l'aimait malgré tout. Vous voyez, il y a eu cette discussion après, où Jésus va lui dire, est-ce que tu m'aimes ? Et là, il va y avoir cette conversation avec cette réalité de dire, est-ce que tu m'aimes ? Et lui dit, tu sais que je t'aime. Et je crois qu'il savait que Jésus l'aimait. Et la façon même dont il va réagir lorsque Jésus va être, il va savoir que Jésus est là, c'est tellement, tellement marquant. On lit ça dans Jean chapitre 21, verset 7, il dit, lorsque le disciple que Jésus aimait, c'est Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ils étaient dans une barque au milieu, là, et Simon-Pierre alla se cacher au fond de la barque. Non, qu'est-ce qu'il a fait ? Dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Ah, ce n'est pas une réaction de quelqu'un qui a peur de qui il va confronter. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'il va être revêtu, et il y a toute une notion aussi de justice et de la façon dont on va revêtir ce que Jésus a accompli pour nous pour aller devant lui. Il va aller à la rencontre de Jésus, et il sait que là, il vient vers celui qu'il aime. Et Jésus ne va pas le rejeter, au contraire, il va être celui qui a tout accompli pour qu'il puisse être réconcilié, pour qu'il puisse vivre à nouveau cette relation profonde. Il n'a pas peur d'avoir échoué, parce qu'il sait qu'il est en face de celui qui va le relever. Il va dire plus tard, dans sa lettre, « Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. » Il savait avant même que tu échoues, que tu allais échouer, et il a trouvé et il a donné la solution pour que tu puisses en ressortir. Quel amour ! Quand tu sais à l'avance, et peut-être on peut le savoir même parfois en tant que parent, dire mais même si tu échoues, même si tu dis, on le dit parfois à nos enfants, je t'aimerai toujours, on le dit aux enfants. Parfois c'est plus difficile quand c'est vraiment profond et difficile ce qu'ils ont vécu. Mais Dieu est vraiment avec ce cœur de père, il dit, même si tu t'éloignes de moi, même si tu m'abandonnais, même si tu étais infidèle, moi je t'aimerai toujours. Rien ne nous séparera de cet amour. J'aimerais finir et demander au groupe de louanges de me rejoindre. Lorsque mes échecs passés me tourmentent, je veux leur rappeler que c'est Jésus qui fait de moi son vainqueur. Ou du moins qu'il est mon vainqueur. Que lorsque mes échecs passés me tourmentent, je dis, ce n'est plus moi, c'est lui qui vit. C'est lui qui me protège, c'est lui qui me couvre, c'est lui qui me relève. C'est lui qui m'enlace de son amour et dire, comme le Père a pu dire à son fils qui était parti au loin, être dans une position dans laquelle il avait déshonoré son père. Et il dit, viens, mon fils bien-aimé. Et lorsqu'on a cette vision-là, vis-à-vis des situations d'échec, vis-à-vis de ce qu'on peut avoir, on est dans une confiance. Parce que l'amour chasse la crainte. C'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Mais on peut marcher avec beaucoup plus de confiance. Comme dit la parole de Dieu, je peux venir avec assurance au trône de la grâce. Devant Jésus. Parce que lui a déjà tout accompli. Lorsque je suis face à cela, je veux me rappeler de tout ce que Jésus a accompli. M'abriter en lui et être confiant. Que peut-être même si les échecs du passé, même si les étiquettes qu'on a pu avoir dans ma vie, liées peut-être à une situation familiale, peut-être liées à ma situation de vie, je veux vivre ce moment-là en disant, Seigneur, que devant toi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils et un fille du roi des rois. Et il ne me condamne pas, mais il me relève. Il me donne la capacité de me relever comme les justes qui se relèvent. Est-ce qu'on pourrait se lever, si vous pouvez, dans ce lieu ? Ma prière, c'est que, en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, les échecs ne nous fassent pas peur. Ne nous empêche pas de faire des pas de foi et de garder cette foi bouillante. Parfois, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive dans notre vie. Mais il y a une chose sur laquelle on peut toujours s'appuyer. C'est sur qui est Jésus, ce qu'il a accompli pour nous. l'amour qu'il a pour nous. Et je veux juste partager un texte qui m'a souvent aidé dans les moments où de crainte, dans les moments où, où c'est parfois difficile de se dire « mais je vais être à la hauteur ». C'est ce que va dire Paul à Timothée. Il dit « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de nous de faire des lâches, loin de nous de ne pas rentrer dans les promesses qu'il a pour vous, nous rend forts, aimants et réfléchis. » C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui va nous rendre capables de vivre ces choses-là. Je ne sais pas quels sont les défis auxquels vous faites face dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale. Mais ce matin, ça peut être l'occasion de dire, « Seigneur, je ne veux pas avoir peur d'échouer dans ce que tu me demandes d'accomplir. Mais je veux entrer avec cette confiance en qui tu es. » Est-ce qu'on pourrait simplement juste prier, fermer nos yeux à notre place et laisser le Saint-Esprit continuer ce travail, alors qu'on va être dirigé dans un champ de confiance en Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta grâce ce matin. Ton amour est toujours aussi puissant, toujours aussi fort. Et je te demande, Seigneur, que dans cette matinée, alors que nous sommes là, alors que peut-être il y a des situations d'échec qui remontent dans nos cœurs et dans nos vies, on veut se rappeler de qui tu es, toi, Seigneur. Tu es ce Dieu aimant. Tu es ce Dieu de victoire qui, à la croix, qui pourrait être une situation d'échec aux yeux humains, en finalement, tu l'as transformé en victoire pour nous. Alors, Seigneur, on veut être confiant lorsque nous marchons avec toi, parce que tu es celui qui veut nous libérer de cette crainte, libérer de cette peur de l'échec. Et je te prie, Seigneur, maintenant, peut-être spécifiquement pour des personnes qui sont comme paralysées dans leur être intérieur, qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus, qu'ils vivent, Seigneur, cette relation tellement profonde avec toi que ton amour les étreigne ce matin et qu'ils disent, Seigneur, je n'ai plus crainte de l'avenir parce que tu es avec moi. J'ai confiance en toi, Jésus. Merci, Père, pour ce que tu fais ce matin. Dans le nom de Jésus, tu accomplis aujourd'hui, tu fortifies, tu affermis. Et tu donnes la victoire pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur, Seigneur, des échecs. Nous n'avons pas peur, Seigneur, de parfois nous tromper. Parce que tu es avec nous, parce que tu transformes ces situations comme une occasion de gloire pour toi. Merci, Seigneur, pour ton Église qui avance. Elle n'est pas exempte de faire des erreurs, mais elle est entre tes mains. Toi, tu la relèves. Et je te prie, Seigneur, pour ça ce matin. On veut juste te dire, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous abritons en toi.
Je ne me
peut donner une main d'acclamation à celui qui est là, qui est présent au milieu de nous. La célébration touche à sa fin. Si vous avez été interpellé, que vous avez besoin de partager vos cœurs, il y a une équipe Écoute et Prière qui va se tenir sur ma gauche. Si vous avez été interpellé, vous vivez un défi et que le message aussi de ce matin vous a interpellé, il y a des gens, il y a toute une équipe qui va se mettre là à votre écoute, vous partager conseils, prières et voilà, vous encourager dans ce que vous pouvez traverser. Donc, on va demander, comme d'habitude, à mon aile sur ma gauche de pouvoir laisser la place pour que l'équipe puisse vivre aussi ce temps d'intimité. Pour les autres, vous pouvez aller échanger et discuter dans le hall d'accueil. On a Agathe, missionnaire du Cambodge, qui est là. Vous pouvez aller échanger, la saluer, qui est de retour pour quelques mois ici. Profitez de ce temps les uns les autres pour vivre la Koinonia. Bon dimanche à chacun et à chacune.
Amen.